Et ce matin, depuis le début de cette rencontre, Dieu a parlé. Et parfois, on pense que c'est nos sentiments, on dit des choses, mais c'est Dieu qui parle au travers de ce que l'on dit, au travers de notre témoignage. Et je bénis Dieu parce qu'il veut nous parler ce matin de la foi. Et je voudrais vous entretenir là-dessus, sur le domaine de la foi, parce que le Seigneur veut faire quelque chose de particulier au travers de nous. Il veut nous saisir, il veut nous remplir de sa présence, il veut nous imprégner de lui, mais il veut que nous devenions ses témoins pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile autour de nous. Et pour cela, il a besoin de nous équiper. Et je voudrais ce matin que nous puissions nous laisser transporter par lui. On va voyager avec le Seigneur ce matin, mais on va lui dire, Seigneur, parle-moi d'une façon particulière. Est-ce que vous savez votre prière ce matin? Que le Seigneur vous parle. Que vous ne puissiez pas dire à la fin de ce culte, oui, bon, ce qu'il a dit, on le connaît, etc. Mais Dieu a quelque chose de particulier à nous dire ce matin, et il veut peut-être aussi nous libérer de certaines choses qui nous empêchent d'aller plus loin dans sa présence, dans son intimité et dans ses plans parfaits. Moi, j'ai envie de progresser avec le Seigneur. J'ai envie de connaître davantage de lui. Est-ce que, je ne sais pas si c'est votre prière, Seigneur, te connaître davantage, aller plus loin avec toi, c'est découvrir la richesse qui est en toi, les richesses infiniment variées de Dieu. C'est à nous, Église, de les proclamer, ces richesses. Mais nous voulons entrer dans quelque chose de particulier. On dit toujours dans des choses nouvelles. Pour nous, elles sont nouvelles, mais pour Dieu, elles sont déjà là. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu de l'excellence. Alors nous voulons dire ce matin, Seigneur, continue à nous transformer de gloire en gloire, de mois en mois, d'année en année. Mais Seigneur, transforme-nous. Continue le travail que tu as commencé en chacun d'entre nous. Oui ou non, mes amis? Est-ce que vous avez envie que le Seigneur vous visite, mais qu'il vous transforme, qu'il vous fasse aller plus loin et que vous puissiez dire, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je veux me réjouir dans la présence de l'Éternel. Je veux me réjouir dans la présence de mon Dieu. Alors, c'est vrai que pour nous, l'adoration, notre relation avec Dieu, elle est importante, elle est essentielle. C'est vrai que les relations, les uns avec les autres, si nous avons une relation verticale avec Dieu, automatiquement, nos relations horizontales vont être bénies, parce qu'on va aimer son frère, on va aimer sa sœur. Et il y a quelque chose de particulier qui va se passer, parce qu'on va aller plus loin, on va aimer ceux qui ne connaissent pas Jésus à l'extérieur. Ceux qui font partie de ce monde qui se perd, on va les aimer et on va demander au Seigneur de pouvoir les approcher. On veut aussi que l'évangélisation soit quelque chose de porteur de bonnes nouvelles. Nous parlons de la formation des croyants, le service. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose de particulier. C'est quelque chose que je voudrais introduire, mais qui travaille mon cœur depuis des mois et des années. Vous savez, j'ai beaucoup prié pour les malades. Et je ne sais pas ce qui se passe dans vos cœurs quand vous priez pour un malade. Il peut y avoir des choses qui passent dans notre tête, dans notre cœur, et qui nous font dire, oui, ben, tu as prié des fois et ça n'a pas marché. Moi, je refuse maintenant de penser cela. Je refuse de m'aligner sur la réalité des choses, c'est-à-dire ce que je vois avec mes yeux, ce que j'entends avec mes oreilles, ce que j'appréhende avec mon corps physique, dans le domaine du visible. Mais je veux dire avec vous, que ce que nous voyons, nous ressentons, c'est une chose, mais il y a une chose qui est inébranlable, c'est la vérité qui se dégage de la parole de Dieu. Quand Dieu dit, sa main l'accomplit. Et je voudrais entrer pleinement dans cette nouvelle dimension, de dire, Seigneur, je veux être ton envoyé, je veux prier pour les malades en ton nom, mais Seigneur, je sais que tu es grand, que tu es fidèle, mais que tu vas déclencher ton plan de guérison pour tous ceux qui souffrent, pour tous ceux qui ont des douleurs, pour tous ceux qui ont des maladies incurables. Je veux proclamer que l'Éternel, celui que nous avons élevé ce matin dans ce lieu, celui que nous avons chanté, celui que nous avons honoré, je veux proclamer qu'il est l'Éternel qui guérit. Il est écrit dans le Nouveau Testament, lui en parlant de Jésus, lui dont par les meurtrissures duquel vous avez été guéri. Ça ne veut pas dire que vous serez guéri. Vous avez déjà été guéri. C'est fait depuis la croix du calvaire. Christ a porté nos péchés, mais il a porté nos infirmités, nos maladies, afin que nous soyons libres. Et je veux dire avec vous ce matin ce qui est accompli n'est plus à accomplir. C'est fait. Quand Jésus a crié sur la croix avant de mourir, en poussant son dernier souffle, tout est accompli. Il y avait la maladie que nous portons, il y avait les douleurs que nous portons, il y avait tout cela, tout était accompli. On a prié pour cet enfant tout à l'heure, mais je voudrais avec vous dire, je ne veux pas croire ce que mes sentiments disent, mais je veux croire ce que dit la parole de Dieu. Par les meurtrissures de Jésus-Christ de Nazareth, elle est déjà guérie. Et le domaine de la confession est vraiment important. Alors tout à l'heure, on a entendu l'introduction de Denis pendant ce culte. Et qu'est-ce qu'il nous a fait faire? Il nous a fait proclamer des phrases que nous avons répétées les unes après les autres. Oui ou non, on l'a fait tout à l'heure. Et je crois que, je disais à Denis, mais ce n'est pas le fait du hasard tout cela. Il y a un fil conducteur tout au long de ce culte. Et si Dieu a permis que nous disions certaines choses dans le moment de prière, si on a entendu Denis introduire ce culte par cela, si on a entendu des chants tout à l'heure qui ont confirmé ce que Denis disait, il parlait de cette faiblesse dans laquelle il était, mais il dira, mais c'est dans la faiblesse qu'est ma force. Et on l'a chanté ce matin, tu te rappelles qu'on a chanté cela ce matin? C'est dans la faiblesse qu'est notre force. Mais simplement, on peut se laisser écraser, mais on peut aussi sortir de cet écrasement simplement en ouvrant nos cœurs et en ouvrant nos bouches et en confessant, en nous alignant sur ce que dit la parole de Dieu. Parce que lorsque la parole de Dieu est proclamée, elle est agissante. Lorsqu'elle est libérée depuis nos cœurs et nos bouches, elle agit. Alléluia, c'est une épée à double tranchant, c'est quelque chose de puissant qu'est la parole de Dieu. Alors on va lire ensemble un premier texte. Si vous avez vos Bibles, on va les ouvrir dans Hébreux chapitre 11, versets 1 à 6. Hébreux chapitre 11, alors bien sûr vous allez dire, mais ça c'est le fameux passage de la foi. Et bien, on va lire ce passage parce que si on veut que notre foi soit fortifiée, il faut lire Hébreux 11, ça stimule. Parce que la Bible nous dit que la foi, amen, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, et il est ajouté une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous vous rendez compte si c'est fort cette parole? Une ferme assurance des choses qu'on espère. Vous savez, la Bible dit dans 1 Jean chapitre 5, versets 14 et 15, « Si nous prions selon la volonté de Dieu, il nous écoute. » Moi, j'aime ce verset. Parce que souvent, on a l'impression qu'on parle, on est peut-être même des machines à parole devant Dieu. Et puis quand on a fini de parler, tous nos doutes remontent à la surface, nos peurs, nos craintes remontent à la surface, puis on a l'impression que ce qu'on a fait dans la présence de Dieu n'a pas servi à grand-chose. Mais moi, je voudrais vous dire le contraire ce matin, et vous dire que quand on proclame la parole de Dieu, il y a quelque chose qui se déclenche dans le ciel. Parce que ce qui est fait déjà dans le ciel vient toucher la terre et vient se manifester dans notre monde visible et terrestre. Il n'y a pas de maladie dans le ciel. Et dans le royaume de Dieu, mes amis, il faut que la maladie s'en aille et disparaisse au nom de Jésus. Il n'y a pas de souffrance. Il n'y a pas toutes ces choses qui nous font la guerre sur cette terre, là-haut dans le ciel. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de division, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas toutes ces choses-là. Mes amis, il faut que dans le royaume de Dieu, dans ce royaume dans lequel nous évoluons, nous avançons, il faut que ce qui est fait dans le ciel soit fait aussi sur la terre. Or, il est dit dans ce passage, c'est par la foi, au verset 3, que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Car c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut pas, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu, écoutez bien, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Dieu veut recevoir de nous ce témoignage que nous sommes agréables à Dieu. Et je crois qu'il y a, ce matin ça a été dit, il y a un regard bienveillant de Dieu sur nos vies. Il y a une approbation de Dieu, et on va en parler tout à l'heure. Bien souvent, nous, on a une pensée sur Dieu, on le voit de telle ou telle façon, alors que quand on lit la parole de Dieu, ce Dieu dont nous avons une image faussée dans notre cœur n'est pas celui-là. Or, il est dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire qu'il récompense ceux qui le cherchent. Oh, moi, je bénis Dieu pour cela. Donc, la foi, c'est quoi? C'est l'image que j'entretiens au fond de mon cœur, au-dedans de mon cœur, dans ma pensée. C'est la façon dont je développe l'image que j'ai de Dieu. J'ai une certaine façon de penser à Dieu. J'ai une image de moi-même. J'ai une image de mon prochain, de l'autre. J'ai une image de mon futur, une image de l'avenir, de ma vie. Et l'image entretenue au-dedans de moi s'appelle la foi. Et c'est vrai que l'image intérieure des réalités que nous ne voyons pas dans le visible, notre marche chrétienne, c'est le résultat de tout ce que nous croyons au sujet de Dieu et de tout ce qu'on croit au sujet de nous-mêmes. Or, mes amis, vous savez qu'on a été fait dans le péché, on a grandi dans une nature déchue. Merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ta transformation, merci Seigneur parce que de gloire en gloire, tu nous transformes par la puissance de ton esprit. Mais mes amis, est-ce que quand on lâche la main de Dieu, quand on s'éloigne de lui, est-ce que les mauvaises choses ne nous rattrapent-elles pas? Oui. Pourquoi? Parce que nous sommes faits de cette nature-là. Quand nous serons dans l'éternité avec Dieu, ces choses-là ne reviendront plus parce que nous aurons un corps glorifié, gloire à Dieu, et nous serons transformés vraiment à son image. Mais tant que nous sommes sur la terre, il y a quelque chose qui nous combat et qui nous fait la guerre au-dedans de nous. Alors nous avons besoin d'apprendre une chose, c'est à mettre la parole de Dieu dans nos cœurs. Nous avons besoin de confesser la parole de Dieu, de la déclarer parce qu'elle veut sortir de nos bouches. Et nous allons voir que ce matin, notre foi, elle épouse notre confession, mais notre confession, elle épouse aussi notre foi. La foi, c'est une question de c'est un peu comme un film. C'est une question d'image, une réalité des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et sans la foi, on a lu, il est impossible de plaire à Dieu. On est tellement conditionné à recevoir, mes amis, des images négatives. Est-ce que ça vous arrive de recevoir des images négatives et puis d'y croire? Oui, ça ne vous arrive pas. Moi, ça m'arrive. Et ça m'arrivera encore, je crois. On a des images négatives en ce qui concerne Dieu. On a des images négatives en ce qui concerne nos propres vies. On a des images négatives en ce qui concerne notre prochain. Et puis, images négatives pour notre futur, pour notre avenir. On est souvent pessimiste. Et c'est, on est programmé comme cela. Et je ne dis pas, je ne parle pas moi de positivisme, mais je vous demande de mettre la parole de Dieu dans votre tête, dans votre cœur. Et ce qui change tout, Paul disait qu'on voit les choses autrement quand on met la parole de Dieu dans notre cœur. J'aime beaucoup ce passage de Romains 12, versets 1 et 2, où il est dit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » La Bible dit « Ne vous laissez pas entraîner par les choses de ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. » Soyez transformés dans le renouvellement de votre intelligence. Et vous savez, j'ai appris une chose ces derniers mois dans ma vie, ces dernières années. Il n'y a qu'un lieu où ça peut être possible, cette transformation. Et mes amis musiciens ne vont pas, et chanteurs ne vont pas me contredire. C'est dans l'adoration que ces choses-là se passent. C'est dans l'intimité avec Dieu que ces choses-là se passent. C'est quand on s'approche de Dieu tel que nous sommes, avec nos faiblesses, avec nos maladresses, avec nos imperfections. Mais quand on s'approche de lui, en étant conscient que le sang de Jésus nous purifie de tout péché, et quand on descend dans les profondeurs de son cœur, c'est là que les choses deviennent possibles. C'est là que il nous transforme à son image. Il nous transforme parce qu'il est rempli de gloire. Et la gloire qui est sur lui, elle vient sur nous. Et elle nous transforme en un autre homme, en une autre femme. J'aime la présence de Dieu. Est-ce que vous aimez la présence de Dieu? J'aime entrer dans l'intimité avec Dieu. J'aime lui parler. J'aime chanter son nom, chanter sa gloire. Mais j'aime aussi me taire pour écouter sa voix au fond de mon cœur. Parce qu'il a quelque chose à me dire. Parce qu'il est vivant. Et parce qu'il veut dialoguer avec son enfant. Il veut parler avec toi. Il veut qu'il y ait un échange positif entre toi et lui, entre ton cœur et son cœur. Et il veut aussi partager son cœur avec toi. Et peut-être au fond de ton cœur, tu te dis, mais Seigneur, je suis trop petit. Mais oui, on est trop faible. Mais c'est quand on est faible que la force de Dieu nous est communiquée, ça a été dit tout à l'heure. Et la parole de Dieu renouvelle notre intelligence. Elle nous imprègne. Elle est puissante, cette parole. Mais quand elle vient en nous, alléluia, elle change nos conceptions. Elle change nos façons de penser. Elle change nos façons de parler, de nous comporter. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante, mais elle est extraordinairement puissante. C'est une véritable bombe atomique. La foi, c'est cette image, la façon dont nous voyons Dieu, dont nous nous voyons nous-mêmes, dont nous voyons les autres, dont nous voyons l'avenir, notre avenir. Et la foi nous permet de corriger l'image que le péché a apporté comme désordre dans notre vie. Le péché a essayé de déformer ce que Dieu voulait nous donner. Peut-être qu'encore aujourd'hui, nous sommes déformés. C'est pour ça qu'on a dit que ce moment que nous passons avec Dieu peut être un démarrage puissant pour les jours à venir, pour les semaines à venir, pour les mois à venir, parce que je crois que Dieu veut nous entraîner dans sa présence, dans son intimité, et transformer, bouleverser nos vies. Ça, je le crois vraiment. Et la foi, c'est accepter de voir la réalité selon Dieu, et non pas la réalité selon l'éducation que nous avons reçue. Voici ce que dira le Proverbe 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Vous connaissez ce verset? Non, vous ne le connaissez pas? Si. Vous l'avez lu et relu, ce verset. Et je vais vous dire une chose qui s'est passée en France il y a bien des années. Un homme qui s'appelait Saint-Martin, c'est un des plus grands évangélistes de l'époque, un des plus grands guerriers spirituels. Et en France, il allait de ville en ville, et quand il entrait dans une ville, la première chose qu'il faisait, c'est que quand il voyait que, parce qu'il avait reçu le discernement des esprits, quand il voyait qu'il y avait des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu, il prenait des jours de jeûne et de prière. Et quand il voyait qu'il y avait dans cette ville un arbre consacré, alors il jeûnait, il priait pendant 3 jours, et au bout de ces jours-là, il prenait sa hache et il abattait l'arbre. Et les habitants étaient là en train de dire, mais le Dieu que nous servons va te foudroyer sur place. Et il leur disait ceci: moi, je ne crains pas ce que vous êtes en train de dire, parce que ce Dieu qui est en moi, il est plus grand que les dieux qui sont dans le monde. Et il les, parce qu'il avait la foi, il leur a dit, mais si le Dieu que vous croyez veut m'abattre, qu'il le fasse maintenant devant vos yeux, mais moi, je ne crains pas de couper ces arbres, parce que ce n'est pas la gloire de Dieu, et Dieu veut libérer cette ville de toutes ces idoles que vous avez érigées. Et paraît-il que lorsqu'il passait quelque part, les gens regardaient pendant un certain temps, rien ne se passait, et ils se tournaient vers le véritable Dieu. Parce que Dieu est Dieu, et il sait comment faire. Mais il dira ceci, le problème le plus grand que j'ai eu sur toute la France, c'est le problème avec un esprit que les ancêtres, les Romains, les Grecs appelaient Mercure. On trouve cela dans le livre catholique d'un monsieur qui s'appelle Henri Pourrard, et il écrit ceci: Mercure est le grand dieu des Gaulois. Ce matin, on a parlé des Gaulois, hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Hein. Voilà. Saint Martin avoue qu'il a eu beaucoup de difficultés avec ça. Il dit, l'ange de la nation, Mercure, est l'homme gaulois, l'ingénieux, la personnification de l'adresse, l'astuce, l'art de persuader, d'humaniser. Il est l'homme déifié, c'est-à-dire l'homme-dieu, qui opère par les ressources de son intelligence, de son esprit, de son habileté de ses mains, de ses techniques, de sa bonne humeur, il opère son propre salut. Il semblerait s'opposer à l'ange Michel ou Michael, qui veut dire « qui est semblable à Dieu ». Mais Mercure, c'est l'humanisme, le recours à soi. Michael ou Michel, c'est le recours à Dieu. Et il y avait d'ailleurs en France, en ce temps-là, quand Martin est venu, une montagne qu'on appelait le mont Mercure. Et Saint Martin a combattu pour amener l'évangile là-bas. Et aujourd'hui, il a proclamé que cette terre s'appelle le mont Saint-Michaël ou le mont Saint-Michel. Pour dire, ce n'est plus simplement la propre intelligence qui va donner, dominer sur ce pays, c'est qui peut être semblable à Dieu. Vous savez, les Français ont une grande foi, mais une foi qui est mal placée. Et je crois que Dieu veut parler à nos églises. Mais Dieu veut parler à chacun des membres qui composent nos églises. Pour dire qu'il y a peut-être des choses qui aujourd'hui ont été élevées dans nos cœurs. Il y a peut-être des forteresses qui se sont mises en place dans nos vies. Mais les armes avec lesquelles nous combattons, mes amis, elles ne sont pas petites. Elles sont puissantes par la vertu de notre Dieu pour renverser les forteresses. Et aujourd'hui, nous voulons dire ensemble, nous renversons toute forteresse et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, mais nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et on dit tous Amen. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et il y a dans nos vies, mes amis, des choses qui nous font la guerre. Il y a peut-être des conceptions qui nous font la guerre. La Bible nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse, ne te confie pas dans ta propre sagesse, dans ton propre raisonnement. » Quel est le fruit du raisonnement humain? Eh bien, le fruit, dans Jérémie 17,5, le fruit sera le désert pour l'homme qui se confie dans l'homme. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme, dit la parole de Dieu. Et regardez notre pays. Il y a des records dans les suicides. Il y a des records dans les angoisses, dans les maladies qui sont des maladies psychiques. Il y a des gens qui sont sous antidépresseurs puissants parce qu'il y a quelque chose, une dépression qui est là. Et l'origine, c'est une foi qui est mal placée, une image continuellement entretenue. Je peux le faire, je n'ai pas besoin de dépendre de qui que ce soit pour le faire et je le ferai. Et nous apprenons, nous chrétiens, qu'on peut marcher comme cela pendant des années, mais il arrive un temps où nous devons dire, ce n'est pas par ma force, mais c'est par la force du Seigneur que nous pouvons agir, que nous pouvons faire ces choses. Parce que sans Dieu, il est incapable. Pour nous, nous sommes incapables d'aller plus loin. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Oui ou non, mes amis? Nous avons besoin de lui, et nous aurons besoin de plus en plus de lui. Et vous croyez que, vous voyez, c'est pourquoi il y a des églises en France qui se développent. Mais souvent, quand on prie, on a l'impression qu'on dit des choses, on est dans la présence de Dieu. Puis après, une fois notre prière terminée, on retourne à nos occupations. Et ce que nous avons déclaré dans la prière, on l'annule par notre façon de penser, notre façon d'agir, notre façon d'être. Et Dieu veut que ça change. Et le fond de tout ça se repose sur cette confiance que nous plaçons dans notre foi, l'humanisme, l'humain, Mercure, la confiance en soi, le recours à soi. Le recours à soi ou alors le recours à Dieu, mes amis? Je vous pose la question ce matin. C'est pourquoi, si notre éducation, notre naissance, parce que nous sommes nés avec une image cassée, ça c'est le péché, il a détruit l'image que Dieu nous avait donnée, mais notre éducation a formé cette image qui est détruite de Dieu, de la parole de Dieu, de la vie. Nous devons amener toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ, renouveler notre intelligence par la parole de Dieu. Et ce matin, mes amis, j'aimerais tellement que nous puissions dire, Seigneur, Asaph le disait, moi c'est une phrase que j'aime, je crois que c'est le psaume 73, et à la fin, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je ne sais pas si c'est votre bien, vous êtes là ce matin, vous auriez pu aller dehors, il fait beau aujourd'hui, hein. Vous baladez. Mais vous êtes dans la maison de Dieu, pourquoi êtes-vous venu dans la maison de Dieu? Avec un esprit religieux, pour qu'on puisse noter votre présence? Non, pas du tout. Vous êtes dans la maison de Dieu parce que vous aimez passionnément votre Dieu. Celui qui vous a envoyé son Fils bien-aimé pour vous sauver, vous l'aimez passionnément. Mais vous voulez que ce Dieu que vous servez, que vous chantez, que vous adorez, que ce Dieu vous transforme de gloire en gloire par la puissance de son esprit. Et il veut le faire, mes amis, pour chacun d'entre nous. Je dis bien chacun d'entre nous. Ne dis pas, oh, j'ai essayé, rien n'a marché. Essaye encore. Parce que Dieu a vu tes souffrances. On a entendu ce matin cette parole que tu as donnée, ma chère sœur. Et je crois que Dieu veut s'intéresser à celui qui se sent le plus démuni au milieu de nous. Celui qui se sent le plus découragé au milieu de nous. Celui qui se sent le plus petit, même le plus inutile au milieu de nous. Mais Jésus, quand il te voit, il ne te voit pas comme toi tu te vois. Il voit d'abord le sang de Christ sur ta vie et il te voit parfaite, parfait. Tu es son enfant. Il est ton créateur. Ne renie pas ton créateur. Et ne dis pas, comme j'ai dit, on pouvait le dire, je suis le plus petit de la tribu de mes pères, etc. Où sont les miracles de mes pères? Dieu a saisi cet homme et lui a permis de vaincre l'ennemi en 3 camps, simplement de 100 personnes. 3 fois 100, 300 personnes, au lieu de 32 000. Et Dieu a montré sa victoire et son bras puissant. Alors, c'est pourquoi je dis, il y a un peu de maladie dans notre mental. Parfois, la parole de Dieu nous dit que nous avons besoin d'être renouvelés, une question de changer d'image. Et c'est vrai que l'Éternel nous dit, « Je suis l'Éternel ton Dieu, tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux et des choses qui sont en bas sur la terre. » Et quand on dit cela, on pense à des figurines, on pense à des icônes, on pense à des choses devant lesquelles beaucoup de personnes se prosternent, on pense à tout cela. Le psaume 106, verset 20, dit ceci, « Ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe, et ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte. » Et c'est vrai que l'être humain est stupide. Ils prennent, par exemple, dans Ésaïe 44, ils prennent un morceau de bois. Avec ce morceau de bois, ils le coupent en deux, ils font avec la moitié du feu, ils mettent la soupe sur le feu, et puis ils se réjouissent en disant, « Avec ce morceau de bois, je peux manger ma soupe. » Mais le Seigneur regarde et il dit, « Mais toi, patate, tu viens de manger ta soupe avec ça, et maintenant, l'autre bout, tu l'appelles ton Dieu. » Bon, ça, c'est mon interprétation, mais c'est ce que veut dire la parole de Dieu. Mais dans Osée, nous lisons, « Maintenant, ils continuent à pécher, ils se font avec de l'argent, des images en fond, des idoles, etc. 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 » Mais la parole de Dieu nous dit que de la même façon, même si nous n'avons pas d'idoles, même si nous n'avons pas de reliques à la maison, dans nos pensées, nous élevons des choses qui deviennent un obstacle devant Dieu. L'homme s'attache à tout ce que son cœur libère. Toute corruption physique, toute corruption obscène procède d'une fausse adoration. Mais la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6, 17, « Celui qui s'attache au Seigneur, écoutez bien ceci, est avec lui un seul esprit. » Moi j'aime ce verset. Quand tu t'attaches au Seigneur, tu deviens un avec lui. Waouh, c'est fort ça. Ça veut dire que tu fusionnes avec lui. Tu fusionnes avec son cœur. Et son cœur vient fusionner avec le tien. Je suis l'Éternel ton Dieu. Tu ne te feras pas d'image taillée. Et je voudrais te poser une question ce matin. Comment est-ce que tu vois Dieu? Quand je te dis, voilà, quelle représentation as-tu de Dieu dans ton cœur? Quand nous voyons Dieu comme un tyran, ben nous avons une interprétation qui est faussée. Rien n'est pire pour un être humain que de voir ses bien-aimés lui porter de mauvaises intentions et d'avoir une fausse image de lui. Est-ce que ça vous est arrivé que quelqu'un vous prête une mauvaise intention et vous salisse? Ça vous est arrivé certainement, ça m'est arrivé à moi. Est-ce que vous êtes content quand ça vous arrive? Non. Et quand on dit que Dieu, celui que l'on chante, est un père fouettard, est-ce que vous croyez que ça lui plaît ça? On a une image faussée de qui il est. Ou alors on a l'image d'un vieux papy mou et anxieux. Vous savez, le vieux qui est dans le ciel assis dans son fauteuil. Et les églises vont chanter de la musique, vont faire de la musique et des chants pour simplement l'aider à passer ce cap parce que c'est long. Hein. On dit, Seigneur, t'inquiète pas, on va te faire un peu de musique. On va te jouer un CD et on sait que la vie est dure, hein, que voilà, tu as beaucoup de travail, surtout dans ces temps que nous vivons, tu as beaucoup de boulot. Hein. Mais l'histoire va bien trop vite pour lui, avec Internet, tout ça. Déjà du temps d'Abraham, il y avait les chameaux, mais maintenant ça va beaucoup plus vite. Alors comment va-t-il se débrouiller aujourd'hui? Vous savez, quand on pense à cela, quand on fixe une image de Dieu au 6e siècle, au 10e siècle, eh bien ça, c'est quelque chose qui détruit notre adoration, qui détourne notre adoration. Et Dieu veut que nous puissions avoir une véritable image de Dieu. Et quand notre image de Dieu est marquée par des sentiments aigres, des sentiments pessimistes, au lieu de la parole de Dieu, au lieu que nous ayons à proclamer que le Dieu que nous servons est un Dieu qui est bon, un Dieu qui est puissant, un Dieu qui est généreux, un Dieu qui est rempli de bonté, lent à la colère, riche en bonté et en miséricorde. Au lieu qu'on dise cela, souvent on a une image tellement faussée de Dieu qu'on en a la trouille. On a la trouille d'un père fouettard et on se dit, si je fais ça, qu'est-ce qui va m'arriver ? Si ton image est en découverte, c'est bon. Elle est en évolution, c'est un film, c'est bon. Mais si c'est une photo à arrêter, une sculpture à arrêter, arrête, tu es en danger. Dieu est le grand je suis, le grand Yahvé, je suis celui qui suis. Alléluia. Je suis ce Dieu Yahvé, Jireh, c'est-à-dire le Dieu de ta source, le Dieu de ta provision. Je suis la source de ta guérison. Et on dit Amen. S'il y a des malades au milieu de nous ce matin, Dieu te dit, je suis le Dieu de ta guérison. Et on va dire Amen ensemble. Ça suffit de nous laisser accabler par les diagnostics des médecins, des choses qu'on entend et qui sont comme, ah, tu as une maladie incurable. Ok, mais mon Dieu est plus grand que la maladie incurable. Mon Dieu est la source de la vie. Et quand il répond à la vie, il la donne en abondance, mes amis. Et je crois dans ce Dieu qui veut remuer notre être intérieur et qui veut nous dire ce matin, je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis la source de ta force. Je suis ta bannière. Alléluia. C'est moi ton drapeau. C'est moi ta fierté. Waouh ! Pardon, excusez-moi. Je suis l'Éternel des armées. Ça veut dire je dirige mes troupes. Je dirige le monde invisible. Je mets les anges à ton service. Mais qu'ils aient du boulot, les anges. Oh, alléluia. C'est leur ministère. Ils sont envoyés pour nous bénir. Ils sont envoyés pour nous apporter ce que le Seigneur veut nous donner. Gloire à Dieu pour cela. Je suis le Seigneur El Kadesh, celui qui veut dire « Je suis le Dieu qui te sanctifie ». Ça veut dire que quand tu es en contact avec moi, il y a une source de pureté qui coule dans ton cœur, qui te rafraîchit, alléluia, une source qui passe dans tes désirs, qui passe dans tes émotions. Et on a besoin de cette source-là. Moi, j'aime dire que nous sommes dans une église comme celle-ci, nous sommes au centre du fleuve de Dieu. Tout ce que le fleuve de Dieu touche reprend vie, parce qu'il est le Dieu de la vie. Alléluia. Je suis El Kadesh, ça veut dire Dieu qui te sanctifie. Mais je suis aussi le Dieu Shalom. Celui qui apporte la paix, qui met fin aux mésententes, qui met fin aux angoisses, qui met fin aux anxiétés. Je suis ce Dieu qui te donne une paix profonde dans ta vie. Je suis Yahvé Roel, ça veut dire celui qui est le berger, celui qui est le guide, qui prend soin, qui t'accompagne jusqu'à la fin de tes jours. Je serai toujours là près de toi, jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne te laisserai. Est-ce que vous le croyez ce matin, que Dieu est celui qui ne t'abandonne pas ? Il ne t'abandonnera jamais. Toi, tu peux lâcher sa main, mais lui ne lâchera jamais, parce que tu es son enfant chéri et parce qu'il t'aime. Voilà qui est notre Dieu. Yahvé Kotsenu, le Seigneur, notre justice, la source de celui qui nous justifie, même quand on a péché, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Moi, je crois cela, mes amis. Nous sommes lavés dans le sang précieux de l'agneau. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Ça veut dire qu'à un moment donné, je suis aigri dans mon cœur contre quelqu'un, mais je me dis, allez, arrête maintenant, viens dans la présence de Dieu, confesse ton péché. Et je confesse mon péché. Mais lui, il est fidèle et juste pour me pardonner et pour me purifier de tout péché. Et je sais qu'il est le Dieu qui me justifie. Il est le Dieu, il y avait Shamma, ça veut dire le Seigneur qui est présent au milieu de nous. C'est bon la présence de Dieu. C'est bon la présence de Dieu ce matin, mes amis, est-ce que c'est vrai ? On est dans la présence de Dieu. Et on a besoin d'entretenir cette image plus juste de notre Père. C'est pourquoi je vous invite régulièrement à cela. Je renonce. Et moi, je vais dire avec vous. Et vous allez dire Amen à chaque fois. Enfin, si vous êtes d'accord avec moi. Hein. Si je dis des bêtises, ne dites surtout pas Amen. Hein. Mais si vous êtes d'accord, vous dites Amen. C'est pour vous réveiller un peu. Je renonce aux mensonges qui prétend que Dieu est un Père qui est distant et qui est indifférent. Ça va, j'ai pas fait une petite bêtise. Alors j'accepte, je reçois la vérité qui affirme que mon Dieu est proche de moi. Je suis dans sa présence. Alléluia. Et le psaume 139 dont tu parlais tout à l'heure, je te loue de ce que je suis une créature. Alors bien sûr, ils vont rire au premier rang. Parce que tout à l'heure tu as dit une créature merveilleuse. Et moi j'ai ajouté, si merveilleuse. Tellement merveilleuse. Hein, ça change, hein, le petit si là. Maintenant, ils vont me connaître comme ça quand ils vont lire le psaume 139, verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature. Alléluia. Ça y est, vous avez chopé le truc. Hein, vous avez attrapé le virus. Je renonce au mensonge qui prétend que Dieu, mon Père, est insensible et qu'il est dur. Alors, je confesse que j'ai foi dans mon Dieu, un Dieu qui est bon, un Dieu qui est compatissant, comme le dit le psaume 103, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Aussi, le verset 12, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Et moi, je veux dire, Dieu est bon. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Dieu est bon. On a lu tout à l'heure, c'est quelqu'un qui l'a lu, je ne sais plus qui, le psaume 107. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de toutes leurs angoisses. Qu'ils louent l'Éternel pour ses bontés. Alors moi j'ai envie de dire comme le psalmiste, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, tous ceux qui ont été délivrés de la main de l'ennemi. Dieu est bon, on va le dire tous ensemble. Amen. Je renonce à ce que les gens disent de Dieu, qu'il est un père sévère, un père exigeant, mais j'accepte ce que dit la Bible, c'est un Dieu qui est accueillant, plein de joie, plein d'amour. Sophonie 3:17, le Seigneur est un héros et il est notre héros qui sauve. Vous dites amen, mes amis. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Est-ce que vous imaginez que pour toi, personnellement, Dieu a des transports d'allégresse. Vous voyez notre mentalité comme elle est gelée. Vous croyez qu'on a mis notre cerveau dans un congélateur, il est bien dur là. Que Dieu dégèle nos cerveaux. Oh alléluia! Que Dieu réchauffe nos cœurs. Mais Dieu prend plaisir en toi et il a pour toi des transports d'allégresse. Mon Dieu est un Dieu non pas de tristesse, mais un Dieu de joie. Il est un Dieu rempli d'amour, mais en même temps un Dieu bienheureux, non pas un Dieu grincheux, mais un Dieu bienheureux. Et je renonce au mensonge qui dit que mon Dieu est passif et froid. Et je déclare qu'il est chaleureux et qu'il est affectueux. Voici ce que dira Osée 11:4. Je l'ai tiré avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Ça a été dit ce matin, on l'a dit ensemble. Hein, Denis? Mais c'est chouette quand même ce matin ce que Dieu nous dit au travers des uns et des autres. Comme tu as dit, hein, le Saint-Esprit n'est pas en vacances. Hein. Dieu n'est pas en vacances. Il est toujours présent dans ce lieu. Hein. Amen. Je renonce au mensonge qui dit que mon Père est absent ou trop occupé pour moi. Je crois que ce que la Bible dit dans Jérémie, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Est-ce que vous comprenez, commencez à comprendre dans quel sens nous allons ensemble ce matin? Je renonce au mensonge qui dit que Dieu n'est jamais satisfait de moi, qu'il est impatient, irrité, parce que la Bible me dit que Dieu, mon Père, est lent à la colère et il est riche en bonté et en miséricorde. Mes amis, ça aussi, il faut qu'on se le mette dans le cœur. Dieu est là pour nous ce matin dans l'église Josué. Dieu est là pour les églises en France. Dieu est là partout. Son peuple l'aime et le rencontre dans l'adoration. Et moi, je crois que vraiment, Dieu va faire de grosses choses au milieu de nous. Je renonce à croire qu'il serait soucieux de supprimer aussi tous les bons côtés de la vie. Moi, quand je vois Jésus avec ses disciples, je suis sûr, Huguette, tu ne me diras pas le contraire, je suis sûr que Jésus avait de l'humour. Pas vous, vous ne croyez pas? Moi, je crois qu'il avait même, mon Dieu a beaucoup d'humour. Et il sait l'utiliser à dessein. Et il profitait de la vie. Alors, quand il buvait du vin, on disait, ouais, il mange et il boit avec les publicains. Quand Jean-Baptiste buvait de l'eau, on le critiquait sur un autre domaine. De toute façon, on est toujours critiqué, qu'on boive ou qu'on ne boive pas. Hein, d'accord? Alors, je refuse aussi de croire que Dieu serait autoritariste, manipulateur. Mais je sais qu'il est plein de grâce, plein de bonté. Alléluia. Et je sais qu'on peut vivre un échec, mais Dieu continuera à me faire grâce même si je connais un échec. Les échecs, pour moi, ce sont des tremplins qui m'aident à aller plus loin. On apprend de ses erreurs. Mais ton Dieu, parfois, te fait passer par des chemins douloureux, difficiles, mais c'est parce qu'il a quelque chose à t'apprendre. Mais il est toujours là pour t'entourer. Il ne t'abandonnera jamais. Je refuse de croire que mon Dieu est impitoyable. Je refuse de croire que mon Père est tatillon, maniaque, intraitable. Mais voici ce que je vais déclarer avec vous. Je crois à un Dieu qui est bon, un Dieu qui est juste, un Dieu qui est puissant, un Dieu qui n'est jamais dépassé par les événements. Amen. Je crois qu'il est souverain. Je crois qu'il, quand il parle, Satan a peur et il tremble. Vous savez ce que disait Reinhard Bonnke, celui que j'ai formé ? Devant Dieu, Satan n'est qu'une souris avec un microphone. Moi, j'aime bien ça. Moi, j'aime cet homme de Dieu, hein, l'évangéliste Bonnke. Hein. Vous connaissez cet homme ? Il est super. Ça, c'est, il est, maintenant, il vieillit beaucoup. Hein. Mais qu'est-ce que j'ai admis ? D'ailleurs, Étienne, hein, n'est-ce pas ? Tu aimes cet homme de Dieu, cet évangéliste. Hein. C'est vrai que je crois que mon Dieu est souverain, roi des rois. Il est seigneur des seigneurs. Alors, mes amis, quelle image nourrissons-nous de Dieu ? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Éphésiens, il dit ceci, il y a un chant même qui le dit, mais dans Éphésiens 1, il est écrit que nous ayons les yeux du cœur afin qu'ils soient ouverts. Que les yeux de votre cœur soient illuminés. Illumine les yeux de mon cœur. On chante ce chant d'ailleurs. Hein. Ouvre mes yeux pour que je voie. Illumine les yeux de mon cœur. Ouvre mes yeux pour que je voie comme tu es, que l'image de toi soit rafraîchie, soit renouvelée. Voilà une église qui va grandir dans la foi quand elle aura obtenu une belle image de Dieu. On va parler des autres choses plus tard, mais là ce matin on va se concentrer sur Dieu. Quelle image développons-nous de Dieu ? Et c'est maintenant je crois qu'on a parfois une mauvaise image de nous-mêmes, mais c'est vrai que nous voulons développer ce matin une véritable, une bonne image de notre Dieu. Je vous invite à vous incliner ce matin devant celui qui est notre Dieu. On ne va pas aller plus loin dans cela. On pourrait parler de nous-mêmes, après on pourrait parler de l'image que nous avons des autres, de l'image que nous avons de notre futur. Mais ce matin, on va s'arrêter sur Dieu et on va lui dire, Seigneur, commence ce travail de nettoyage dans mon cœur, dans mon esprit. Seigneur, je veux voir l'image de qui tu es être restaurée dans mon cœur. Je veux croire que tout ce que dit la Bible à ton sujet est la vérité. Et je ne vais pas me laisser impressionner par ce que je traverse, par les circonstances, par les choses de la vie qui sont parfois négatives. Mais je veux laisser mon regard être fixé sur toi et dire, Seigneur, tu ne changes pas. Tu es toujours le même, Jésus. Hier, aujourd'hui et éternellement. Et si le monde change, si le monde court à sa perte, toi, tu es le rocher des siècles. Et tu es le rocher qui est stable, que nul ne peut remuer. Mais mon frère, ma sœur, si tu places ta vie, et si tu construis ta vie sur le rocher des siècles, comme lui est stable, toi, tu vas devenir stable. Les tempêtes pourront arriver. Les vents contraires pourront souffler. Mais ton regard sera toujours tourné vers le ciel. Là où d'où vient ton secours, là où la main de l'Éternel vient se poser sur toi. Merci Seigneur ce matin pour ce message qui nous parle de qui tu es. Tu es mon Dieu et je te cherche. Tu es mon meilleur ami. Je t'ai découvert en recevant ton Fils Jésus comme le sauveur de ma vie et comme le Seigneur de ma vie. Mais Seigneur, je veux apprendre à te connaître plus, te connaître davantage. Et je te demande ce matin de remuer mon cœur et remue-moi afin que je puisse remuer les autres. Transforme-moi afin que je voie des vies autour de moi transformées quand elles me verront être transformées par toi. Mais je crois dans ta fidélité. Je crois également que lorsque nous nous alignons sur ta parole et que nous nous soumettons à ce qu'elle dit, alors ce que ta parole dit, ta main l'accomplit toujours, parce que tu es fidèle pour accomplir ce que tu as dit. Seigneur, je veux te demander ce matin de dépoussiérer nos cœurs, de retirer tout ce qui est mauvaise image, idolâtrie dans nos cœurs, au nom de Jésus, fausse image que nous nous sommes faites de toi. Et je veux déclarer ce que dit ta parole. Tu es un Père tendre et attentionné pour chacun d'entre nous. Tu nous aimes d'un amour formidable et éternel. Et lorsque tu parles avec bienveillance. Quand je tombe, tu me relèves. Si je tombe 10 fois, 10 fois, tu me relèves. Et je ne tombe pas exprès parce que je sais que tu me relèves. Mais c'est lorsque je suis dans la peine, dans le désarroi, tu me tends la main, tu me secours. Et je peux dire, jusqu'à présent, tu as été fidèle dans ma vie. mais tu le seras dans la vie de chacun et de celles et ceux qui sont présents dans ce culte. Mon âme t'adore, Seigneur, et je te dis, tu es le plus beau des fils de l'homme. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Je veux ressasser dans mon cœur toutes les bontés de l'Éternel. Je veux les parler, je veux les dire autour de moi. Mais je veux, Seigneur, m'aligner sur ce que dit ta parole à ton sujet. Tu es mon Père. Tu es mon Père céleste. Mais tu es un Père aimant. Un Père qui ne me rejette pas. Un Père qui m'accueille les bras ouverts. Un Père qui passe du temps avec moi, qui désire passer plus de temps encore dans cette intimité avec toi. Aide-moi, Seigneur, dans cette semaine à descendre dans les profondeurs de ton cœur. Parce que là où est ton esprit, là est la liberté, là est la vie. Merci, Seigneur, de me parler. Merci, Seigneur, de me faire découvrir les sentiers sur lesquels je dois marcher. Merci de me conseiller. Merci d'avoir le regard sur moi. Mes bien-aimés, je vous laisse ce verset. Je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. Et j'aurai le regard sur toi. Psaume 32, verset 8. Que Dieu vous bénisse. Mais ce matin, je prie afin que toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu soit abattue au nom de Jésus maintenant. Satan est sous nos pieds, mes amis. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Et ce matin, nous confessons que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. J'appelle la bénédiction de Dieu sur vos vies. J'appelle la bénédiction de Dieu dans votre foyer. J'appelle la bénédiction de Dieu dans cette église, sur les vacanciers qui ne sont pas là ce matin. J'appelle la bénédiction de Dieu sur cette ville de Guebwiller, sur la région de Guebwiller, sur l'Alsace tout entière, sur notre pays de France, sur l'île de France et sur les îles lointaines, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Soyez bénis mes frères et sœurs. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen.